Donc oui, la communication que je présente, elle repart d'une citation de l'ouvrage, Mes meubles, ils dansent dans ma tête. Sociologie des objets et objets de la sociologie dans le monde privé des ouvriers. Alors, la première partie, celle qui est à la fois claire et modeste, elle est d'Olivier. C'est une citation issue du chapitre 1 et de l'analyse des significations des objets matériels pour les ouvriers de la cité des îlots, donc qu'il étudie. Et les objets, c'est pour ça que ça répond très directement à la réflexion de Cédric sur l'incertitude et l'insécurité. Ils sont d'abord analysés comme des victoires sur le manque et l'insécurité, et des victoires sur l'échec et le stigmate social. Alors, d'abord, si j'ai choisi une citation pour titre, c'est parce qu'il me semble qu'une des qualités du livre, c'est d'arriver à donner à voir ou à donner à entendre la parole des enquêtés d'une manière très directe. Et pour ce qui concerne la question que j'ai retenue, c'est-à-dire la question des objets, à aller jusqu'à donner la parole, écouter le langage dont parlent des objets, je reviendrai là-dessus. Ensuite, la sociologie des objets, objet de la sociologie, c'est une articulation qui est présente de manière très explicite dans l'argumentation du livre. Parce que si ce livre il porte sur la question de la privatisation, celle-ci est d'abord abordée à travers la question des avoirs, à travers la question des avoirs, qui constitue une catégorie générique pour désigner non seulement les objets matériels, mais aussi les liens et les biens. Pour prendre juste un exemple, Eliane, dont parlait Dominique, et son rapport au corps problématique, elle ne sort jamais de chez elle sans son caddie et ses enfants, qui la protègent du regard du monde extérieur. Et je crois que c'est à peine poussé trop loin que de dire que les caddies et les enfants appartiennent au même monde des objets, de l'appropriation, dans la manière dont Olivier les analyse. Alors il y a peut-être simplement le rapport à la mère qui échappe à cette capacité d'appropriation. Alors deuxième remarque sur le caractère très général de la réflexion des objets dans le monde privé des ouvriers, c'est que donc le privé c'est une notion qui est travaillée sous trois dimensions. Alors trois dimensions qui sont chacune articulées différemment avec la notion de famille en tant que structure sociale. Il y a le privé en tant qu'il s'oppose au public, le privé comme lieu de l'intimité du secret, le privé comme sphère de l'avoir et de la prise de possession personnelle, et là on s'oppose au commun. Et donc c'est sous ces deux aspects, évidemment, on va trouver des objets. Il y aura des objets matériels, et parce que on va trouver dans l'aménagement du chez-soi une sphère de l'appropriation. Et donc, simplement, ces deux premières dimensions du privé, elles peuvent être traitées empiriquement, indirectement, par le biais de la famille. C'est la stratégie d'enquête que tu avais choisi d'adopter de manière générale. Mais il y a une troisième dimension du privé. Le privé comme, on pourrait dire, une sphère d'autonomie, une sphère d'auto-appartenance. Alors là, je te cite, un espace de souveraineté où les acteurs, tendanciellement au moins, se présentent comme déliés des grandes suggestions sociales. Alors, c'est un espace non hétéronome, supposé autoriser une appropriation heureuse, dont les buts sont ceux de l'acteur et les moyens, le libre jeu de ses forces. Page 322 de la nouvelle édition. Et donc, un des défis majeurs de l'investigation, c'était d'enquêter empiriquement sur cette dimension-là du privé, qui est caractérisée par l'écart, la distance, la fuite. Et tu cites Georges Duby quand il appelle cet élément le plus privé de la vie, au fond. Et donc, c'est bien un défi parce que cette dernière dimension du privé, elle est vraiment, elle, irréductible au passage par la famille pour enquêter indirectement, donc, mais positivement sur les autres dimensions du privé. Enfin, étudier le rapport aux objets, ça permet, excusez-moi, d'objectiver, d'ancrer dans des pratiques et dans des réalisations concrètes une aspiration à un ailleurs, une tentative de déclôturation de l'espace physique et social, une échappée de la frustration, qui est peut-être la part la plus insaisissable, la plus évanescente, la plus imperceptible, mais aussi peut-être la plus radicale du privé. Saisir les objets, c'est se donner les moyens d'aller au cœur des rêves et des désirs. Et comme tu le dis toujours à propos d'Eliane, eh bien, manquer cette dimension, ce serait imaginer les protagonistes sans imaginaire. Et évidemment, on imagine le coût, tu soulignes, le coût non seulement analytique, mais on peut déjà dire aussi politique, qui aurait à imaginer ces acteurs sans imaginaire. Alors, donc je vais articuler mon propos autour de trois points. Les deux premiers suivront assez nettement la distinction qu'on trouve dans l'ouvrage, dans le traitement des objets. Les objets sont à la fois les objets donc de la vie matérielle, hein, sont à la fois un élément d'identification de la position sociale, donc un marqueur est un indicateur d'une stratification à l'œuvre. Et donc, sous ce premier registre, c'est, on va dire, l'accès de la culture ouvrière à la sphère marchande, à la culture des signes monétaires qui va être l'objet de l'analyse. Et au fond, c'est la faculté de consommer en tant que telle qui est signifiante. Alors, dans un deuxième temps, je m'intéresserai aux objets, mais en tant que cette fois qu'ils sont vecteurs d'un imaginaire. Et donc, ils sont conducteurs de signification, de projection, de fantasme. Et là, de ce point de vue-là, c'est peut-être Nicolas Hatzfeld parlait d'audace, c'est aussi parce que Le Monde privé des ouvriers est un livre phénoménologique. C'est-à-dire que, tu le dis d'ailleurs sans détour, page 94, « Je suis conscient des risques de subjectivisme inhérents à toute démarche phénoménologique, mais quand les objets cristallisent visiblement d'intenses investissements affectifs, comment les comprendre ?» sinon par description hypothétique de leur nature intentionnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on a une analyse qui va aller jusqu'à la prosopopée des meubles. On va faire parler les meubles pour comprendre les investissements, les significations qui leur sont données par des acteurs socialement situés. Et enfin, si je respecte le temps, j'essaierai de montrer comment on peut aussi considérer Le Monde privé des ouvriers comme un livre fondamentalement théorique et comment un certain nombre de propositions, celles qui sont notamment inscrites dans la première section du premier chapitre, dans la section famille ou vie privée, nous permettent de jeter un certain nombre d'éclairages sur des débats contemporains de la sociologie française. Bon. Donc ça sera pour au cas où je respecterai la montre. Donc premier point, les objets comme indicateurs d'une position, d'une stratification sociale et indicateurs d'une position sociale. Alors, les objets, je l'ai dit, sont des victoires sur l'échec et le stigmate, des victoires sur le manque et l'insécurité. Donc pour comprendre le rapport des ouvriers à la culture matérielle, il faut repartir de l'insécurité constitutive de cette condition. Et cette insécurité, elle est faite pour les hommes d'un mode de légitimation par le travail très, très, très précis, hein, une légitimité agonistique, c'est-à-dire des conduites de dépenses qui exigent une forme de mise en risque, une exposition de soi. Et pour les femmes, une ascèse et un sacrifice autour du gouvernement domestique qui leur est délégué, comme tu l'as dit tout à l'heure, du fait de la contrainte économique majeure qui pèse sur les familles. Et donc on a tous un ensemble de caractéristiques, une morale du renoncement, une pratique de l'autoconsommation et une clôture de l'espace social qui définissent un certain rapport à la consommation et qui est intrinsèquement lié donc à cette insécurité ouvrière. Et en fait, dans la première période, celle de la prolétarisation qui précède au fond celle dans laquelle l'enquête est réalisée, tu dis au fond l'argent, condition décisive pour l'accès aux biens, était trop rare pour qu'elle puisse s'insérer de façon significative dans la consommation moderne. Et finalement, l'effort physique, qui était déjà au fondement du travail, constituait aussi dans la vie quotidienne la médiation obligatoire de tous les grands besoins. Ça veut dire que dans la société prolétaire, au fond, les objets matériels étaient absents parce que l'argent était lui-même absent et que donc la force, le travail, l'engagement, l'énergie, au-delà même de l'activité professionnelle, était la médiation de la satisfaction de la quasi-intégralité des besoins. Donc à partir de ce point de départ, la privatisation, c'est une dynamique essentielle que tu évoques à partir de la sphère matérielle. Et l'essentiel qui caractérise le destin de ce que Noiriel appelait la génération singulière, celle qui a connu à partir des années 30 une forme de stabilisation dans des conditions d'emploi beaucoup moins insécurisées que les générations précédentes, eh bien, c'est l'accès, une relation très nouvelle entre chances d'accès aux biens et échelle des générations. Donc un certain nombre de générations ouvrières, celles qui sont arrivées à maturité dans les années 60 et 70, ont pu accéder, alors non pas évidemment à une forme d'aisance ou de confort, mais à un relatif desserrement des contraintes économiques et matérielles qui pesaient sur leurs parents. Et alors que ces parents devaient lutter au quotidien contre l'insécurité de leurs conditions, les enfants ont pu célébrer à travers l'acquisition d'objets quelques petites victoires sur le manque et les privations. Alors c'est exactement parce que ces objets renvoient à cette victoire, à cette dynamique expansive ou d'expansion de capacité à investir de manière positive la sphère privée, qu'ils parlent tout un langage. Et donc qu'ils certifient un statut matériel, symbolique, acquis, qu'ils signent l'entrée dans une condition autre que celle de prolétaires dépossédés. Et tu soulignes à quel point cette entrée se fait sur un mode jubilatoire, d'où la danse des meubles dans la tête de cet enquêté, et d'où aussi cette jubilation qui constitue, là pour le coup, réellement, je crois encore aujourd'hui, un point relativement aveugle d'un grand nombre de travaux sociologiques, la jubilation des ouvriers, et notamment des ouvrières, à entrer dans la sphère des échanges marchands. La sphère des échanges marchands, la capacité à acheter, à vendre, à entrer dans des rôles, eh bien, c'est finalement tout un ensemble de gratifications, et tu ne vas jusqu'à les désigner comme un des grands plaisirs de l'existence. Finalement, le marché offre quelque chose comme un plaisir, une jouissance, qui est liée à la capacité à exprimer une possession, un statut, mais aussi d'entrer en relation sous une modalité qui finalement pose l'individu d'une manière relativement valorisante. Donc ça, c'est le point par lequel les objets sont abordés, je crois, de la manière la plus massive dans l'ouvrage, comme une victoire et comme le signe de la sortie, alors sortie évidemment partielle, j'y reviendrai, de la condition prolétaire. Alors évidemment, mais je ne vais pas développer là-dessus, parce que je pense qu'Anna Perrin-Hérédia y reviendra, il y a toute une stratification interne au monde ouvrier que tu lis à travers les conduites économiques. Il y a évidemment des formes d'installation, de stabilisation, mais il y a aussi ce que tu appelles des conduites tactiques, donc c'est-à-dire des conduites d'adaptation à des situations de pauvreté. Et puis il y a des modulations pour les familles ouvrières les plus précarisées ou les plus fragiles, les plus instables. Là, un renversement de la signification de la consommation qui devient une revanche, qui devient une manière, finalement, de rétablir une certaine image de soi trop fragilisée. Et donc, il y a cet exemple très, très frappant de cette famille, alors, dont y compris la généalogie est incertaine dans la cité, et donc il y a des doutes de paternité, on va dire, et qui se requalifie avec un usage de la consommation de services qui est tout à fait disproportionné. Ce sont des gens qui vont en vacances en taxi, qui se prennent un taxi pour aller en vacances dans le sud. Et dans ce cas-là, tu l'analyses comme des conduites de fuite, c'est-à-dire la consommation est une manière de fuir une condition ou une légitimité qui est par trop incertaine. Alors, dernier point de cette analyse de la stratification, l'accès au bien, l'accès à la sphère matérielle. Donc c'est un indice de la relative ouverture de l'espace social des ouvriers. Mais c'est également un indice du maintien des limites, parce que si les ouvriers accèdent à des biens matériels, accèdent à des formes de consommation, sortent de la ou desserrent l'étau de la contrainte, s'ils sont déprolétarisés, ça ne les fait pas pour autant rentrer, on pourrait dire, dans des classes moyennes ou dans une culture de la consommation qui serait partagée à l'échelle de la société. Et tu mets en garde tout de suite, page 98, gardons-nous de lancer trop vite nos personnages dans la course à la consommation. Leur gestion trop économique et rationalisée des ressources ne se détache jamais, alors même qu'ils ont atteint une relative aisance d'une intention de se constituer des réserves à long terme. C'est la retenue et non la dépense qui les caractérise d'abord. Il faut accumuler pour se préparer à cet imprévisible prévisible qu'est le chômage. Alors cette rétention, elle est exacerbée dès lors qu'il s'agit des services, c'est-à-dire qu'on veut bien consommer, mais des biens qui sont durables et les services sont disqualifiés parce que d'abord on peut soi-même suppléer et puis qu'ensuite simplement la valeur d'usage s'abolit dans la consommation même. Donc ce sont des modes de consommation qui n'ont pas d'intérêt. Et surtout, on peut le dire comme ça, et ça apparaît très nettement à partir du cas des ouvriers qui sont vraiment en ascension, notamment le cas de André et Marilyn Mounier. L'investissement des objets, l'investissement affectif des objets, il est aussi le signe que même pour ceux qui sont en ascension, au fond, leur sont fermées d'autres formes de gratification qui marqueraient leur entrée dans les classes moyennes. S'ils investissent tellement les objets, c'est parce que la sociabilité pas forcément mondaine, mais la sociabilité avec ceux que eux-mêmes appellent des personnes intéressantes dans des classes moyennes, voire supérieures, leur est interdite. Et donc, l'investissement sur les objets, c'est à la fois la déprise par rapport à la contrainte matérielle, mais aussi le signe que d'autres formes d'investissement sont quant à eux inaccessibles. Et je crois que c'est sur ce point-là, qui marque à la fois l'entrée des classes, alors je vais passer ici des classes de la classe ouvrière aux classes populaires contemporaines, pour reprendre le titre de l'ouvrage qu'ont écrit un certain nombre de collègues présents ici. eh bien, l'entrée dans la consommation ne signifie pas du tout moyennisation ou ne signifie pas du tout partage homogène des caractéristiques des consommateurs dans la société. Et là, je crois qu'on touche quelque chose qui est comment on analyse le maintien des écarts sociaux à travers des pratiques de consommation. Tu en dis que toi-même quelque chose dans ton habilitation quand tu évoques Bourdieu, cet allié inattendu, en disant que le retard qu'ont les catégories populaires dans l'acquisition de biens fait finalement signe leur subalternité. Ils accèdent aux mêmes biens que les autres catégories, mais ils le font dans un temps qui est différent. Et ce temps différent, au fond, ça manifeste leur position dominée. On trouverait également ça, évidemment, dans les travaux de Daniel Tin, qui, lui, montre comment, au fond, les objets, même si ce sont les mêmes contenus qui sont consommés que les classes moyennes, font l'objet d'appropriations hétérodoxes. C'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes appropriations qui sont faites des mêmes objets par des catégories différentes. Et on trouverait, évidemment, dans les travaux de sociologues contemporains, et je pense notamment à la thèse de Pierre Gilbert, qui présentera, qui animera la table ronde de cet après-midi, eh bien, un certain nombre d'analyses sur la différenciation des modes de consommation, sur les styles de vie qui se développent, pour son cas, dans le contexte de la rénovation urbaine des quartiers populaires. Voilà. Donc il me semble que c'est bien là un des lieux sur lequel les formes d'analyse de la consommation auxquelles tu procèdes ont trouvé un développement et trouvent aujourd'hui une actualité en permettant de relativiser, je crois, considérablement les analyses qui mettent en équivalence accès à la sphère de la consommation et moyennisation ou affaiblissement des frontières de classe sociale, pour le dire très très et trop simplement. Deuxième angle d'analyse, sans transition, les objets comme support d'un imaginaire. Et je crois que là, c'est vraiment sur ce plan-là que l'audace de la démarche du monde privé des ouvriers apparaît de la manière la plus nette. D'abord, le livre s'intéresse de bout en bout à ce qui est appelé des formes redondantes et sophistiquées de consommation. En disant que s'intéresser à ces formes redondantes et sophistiquées de consommation, c'est un moyen de saisir la richesse des significations et l'intensité des investissements dont l'intérieur sont le théâtre, et le statut central des objets dans cet espace. Et il y a tout un vocabulaire, un champ sémantique du religieux qui accompagne la définition de cette ère du foyer, ère protégée par les femmes et ère qui est considérablement investie par les deux membres du couple. Temple, sanctuaire, divinité, enceinte sacrée, je ne retiens que quelques-unes des expressions qui renvoient à ce champ sémantique du religieux. Et dans ce foyer, les objets tiennent une place rassurante. Ce sont des choses et des êtres sont investis dans une étroite proximité avec le corps et un manque de distance qui fait que les objets, finalement, sont conducteurs du désir. Les objets sont conducteurs du désir, c'est-à-dire que les objets abolissent la distance au désir, à l'inverse du reste du monde social et de sa, on peut dire, de sa brutalité, la brutalité des rapports sociaux dans lesquels sont pris les ouvriers. Au fond, le monde du foyer, et en particulier à l'intérieur du foyer, le monde des objets, va être un monde de l'appropriation douce, un monde de la proximité, et un monde qui est propre parce qu'il est proche, parce qu'il est sous la main. Évidemment, la télévision et la télécommande de la télévision étant l'idéal type, et dans l'idéal type de ce qui se donne à maîtriser et qui offre un flux, une présence qui est à la fois évidemment visuelle et sonore permanente. Ensuite, cette réassurance, qui est donc à peu près la même forme de réassurance qui est donnée aux hommes par leurs femmes, mais cette fois par la médiation des objets. On peut taper sa femme, mais on peut aussi taper la télévision quand elle ne répond pas trop directement. Cette forme de réassurance, elle passe par la matérialité des objets. Et là, il y a une attention extrêmement précise au choix des meubles, aux caractéristiques matérielles des objets qui habitent les intérieurs. Et ici, il y a évidemment tout un ensemble de réflexions sur le choix des meubles en chaîne, notamment toujours par André et Marilyn Mounier, des meubles qui vont manifester l'ancrage dans la durée, qui vont manifester le travail humain qui a été réalisé sur eux et qui vont spatialiser des rêves de stabilité, de fécondité et qui sont pour un couple qui partage avec des origines différentes une même volonté d'élévation sociale. Et donc les meubles sont ici le reflet d'une subjectivité familiale, d'une représentation théâtralisée des aspirations communes de la famille ou des membres de la famille. Et il y a un point dans le chapitre 1, quand tu évoques famille et vie privée, sur lequel Dominique s'est arrêté, où tu cites Joseph Schumpeter en disant « Pour Joseph Schumpeter, la famille, c'est l'unité fondamentale de l'analyse des classes sociales. » Je crois que je suis fondamentalement convaincu par ce point, c'est-à-dire que les objets sont le lieu par lesquels les membres du couple, les membres de la famille, vont se solidariser et vont projeter un investissement, une accumulation primitive de ressources qui va leur permettre de se lancer dans une ascension ou dans une élévation sociale, en tout cas dans le projet d'une ascension ou d'une élévation sociale. Mais en tout cas, et c'est le dernière remarque transversale à cet imaginaire, c'est que les objets sont la partie heureuse de l'existence ouvrière, parce qu'ils signent la victoire sur le manque, mais ils sont une deuxième fois la partie heureuse de l'existence ouvrière, parce que, à la différence des relations directes entre les membres du couple, bien les objets vont être vecteurs de solidarité. C'est-à-dire, les objets vont être vecteurs de solidarité. Les biens matériels vont être des objets qui vont véhiculer rêve, présence, abondance, fête, stabilité, tout un ensemble de caractéristiques qui ne seront plus présentes ou présentes avec une tension beaucoup plus forte dès lors que les membres du couple vont se regarder l'un l'autre et vont cesser de regarder la télévision. Donc il y a là un point qui est souligné avec une grande force, c'est que l'objet a une fonction médiatrice. C'est-à-dire qu'il abolit la tension, il abolit le clivage entre le masculin et le féminin, et il permet cette solidarisation. Donc tu le dis, l'objet fonctionne comme une métonymie réussie du désir et constitue à ce titre un mécanisme de renforcement du terrain d'entente. Alors évidemment, les objets sont distincts pour les hommes et les femmes, et les femmes investissent plutôt les objets à fonction pratique, les équipements de base de la maison, les appareils ménagers, la télévision, quand les hommes vont investir les objets à fonction poétique, ceux qui esthétisent le décor ou introduisent une dimension imaginaire dans l'existence. Donc il y a bien des inégalités de genre qui sont présentes dans l'analyse des objets. Et je voudrais continuer en revenant sur ces appropriations différenciées des objets par les femmes et par les hommes. Alors du côté des femmes, je crois qu'on peut dire que ce n'est pas parce qu'elles n'investissent pas prioritairement les objets à finalité esthétique ou poétique qu'elles sont dépourvues d'imaginaire. Mais cet imaginaire, c'est un imaginaire de la concentricité. Assigné au foyer, les femmes l'investissent comme un espace propre dans une dynamique d'incorporation, appropriation du microcosme ménager. Les éléments, nourriture, argent, enfants, biens sont siens. Les choses sont infléchies vers l'intérieur, vers le centre. Tout manque peut être comblé par une incorporation. Et ce propre, il faut l'entendre dans un sens très littéral. C'est-à-dire qu'une grande partie du travail domestique qui est réalisé par les femmes consiste à maintenir la propreté de l'espace ménager, en chassant les enfants au besoin, mais surtout en limitant la présence des hommes. Et ici, on voit à quel point, dans cette concentricité, il y a une tendance à l'autarcie qui se manifeste, une tendance à l'autosuffisance qui va constituer les hommes comme altérité, menaçante ou dangereuse. Donc il y a une dynamique de concentration sur soi, de retour à soi, que les femmes vont essayer de mettre en place, qui sera évidemment toujours contrariée, mais qui va accroître la différence avec les hommes. Et du côté de ces hommes, c'est à travers les objets qu'ils vont accéder en propre à cette sphère privée masculine qui n'est pas la sphère privée familiale et qui lui est même irréductible. Là, il y a de très belles pages, notamment sur la poétique des objets, sur les investissements qui sont faits par les hommes, qui témoignent de la jubilation à mettre en suspens les grandes contraintes sociales dans un espace de jeu, d'interaction avec la matière. Tu parles d'une quasi-communication avec les objets dans le cadre, par exemple, des activités de bricolage. Et je voudrais faire quatre remarques là-dessus. La première, c'est que tu réinscris cette jubilation des hommes à investir la sphère matérielle dans une culture ouvrière apte à manier les objets, à entrer dans leur langage, à les combiner dans des relations inventives. Et que cette culture ouvrière, elle n'est évidemment pas sans relation avec ce qui se passe dans la sphère du travail, et notamment Raoul qui remplit son intérieur d'objets à l'ancienne, Et tu y vois au fond une espèce de rempart à la déqualification des pratiques de type artisanal dans le monde ouvrier dans lequel il exerce son activité professionnelle. Comme si des savoir-faire, comme si tout un ensemble de maîtrises que les ouvriers pouvaient avoir sur leur ouvrage étaient disqualifiées, et comme si dans la condition disqualifiée étaient en quelque sorte compensées par cet investissement imaginaire dans des objets anciens. Deuxièmement, le monde matériel est un monde investi par les hommes parce que c'est un environnement dans lequel ils n'ont pas besoin d'accéder à la parole. Et l'ensemble des analyses de l'ouvrage montre à quel point, quand la parole doit être mobilisée, elle replace les hommes dans une situation de domination, de subalternité, voire d'humiliation. Quand les hommes parlent, c'est pour recevoir des ordres. Dans l'usine et dans la sphère familiale, ils sont dominés, même si cette domination peut évidemment être contestée. Et donc, dans les grands cadres de socialisation, la parole est un vecteur de domination. Et donc, le rapport au monde des objets permet de fuir ou de mettre à distance cette contrainte de la verbalisation avec tous les rapports sociaux qu'elle véhicule. Et enfin, le monde matériel renvoie à un ailleurs, manifeste le désir d'une autre vie, mais en même temps, il est caractérisé par cette polarité, entre le privatisme ou la privatisation expansive, ceux qui parviennent à accumuler quelques biens matériels, quitte à ne pas pouvoir en faire état parce qu'ils n'ont pas la sociabilité qui leur permettrait de les valoriser. Et à rebours, cet exemple très, très fameux de Jean-Louis Dirier qui est enfermé face à sa télévision. Alors, sa télévision devient son objet au sens fort, c'est-à-dire la télévision est le seul médiateur du lien avec le monde social quand le chômage a tellement cassé l'image qu'il avait de lui-même que la seule stratégie disponible est de fuir le regard des autres. Voilà. Donc il me reste 3 minutes 35 pour éviter les enjeux théoriques par lesquels le livre me semble pouvoir entrer dans un certain nombre de discussions contemporaines de la discipline. Donc je vais évidemment aller de manière outrancièrement schématique, mais quand même sur quatre terrains. Il me semble que la démarche théorique du monde privé des ouvriers pourrait être réinvestie à profit dans notre discipline. La première, c'est évidemment sur la relation entre structure et acteur. Parce que, Olivier, tu présentes une réflexion entre le privé et le familial où les structures ne sont jamais niées en tant que productrices d'effets. C'est-à-dire les structures sociales sont toujours agissantes, toujours contraignantes dans la vie des ouvriers. Et en même temps, on ne se contente jamais de cet effet des structures. Il y a toujours l'idée qu'il va falloir étudier les structures comme des effets de l'investissement qui est en effet par les individus. C'est-à-dire que les structures produisent les effets, mais en même temps, il y a des effets, les structures sont des effets. C'est-à-dire que les structures n'existent pas sans l'investissement des individus. Et tu as le même type de réflexion sur la règle, qui ne règle pas l'usage qui est fait d'elle, ou sur le rôle. Tout ça sont des cadres théoriques, sont des cadres d'analyse qui ne tiennent pas tout seuls. Et donc, tu proposes, au fond, une articulation entre une sociologie des structures sociales, on va dire d'inspiration bourdieusienne, et une sociologie qui est du monde du registre, tu vois, des acteurs. Tu cites Touraine, et donc, un registre où l'individu est beaucoup plus présent, beaucoup plus manifeste. J'y reviendrai dans moins d'une minute 45. Deuxième point sur lequel le monde privé des ouvriers présente des analyses qui sont, à mon avis, totalement disqualifiées dans la sociologie contemporaine, c'est précisément cette question de l'imaginaire. Alors, on était trop bien placés, si j'ose dire, à Paris Descartes, c'est-à-dire quelques étages en dessous des sociologues professionnels de l'imaginaire, pour ne pas savoir à quel point cette dimension de l'imaginaire, elle a été captée de manière exclusive par un courant de la sociologie. Et tout ce que j'ai rappelé sur l'attention extrêmement précise aux significations des objets, à l'imaginaire qu'ils véhiculent, et même en allant jusqu'à les faire parler, à faire parler des objets inanimés, bien tout ça est passible d'un traitement sociologique dur. C'est-à-dire, il est tout à fait possible et souhaitable de faire une sociologie de l'imaginaire qui réinscrive cette dimension dans les positions sociales de ceux qui déploient cet imaginaire et dans les formes d'appropriation qu'ils vont mettre en œuvre. Et donc là, je pense que il y a une mutilation de notre discipline qui est liée à cette division du travail et en fait à cette captation de l'imaginaire par un pan de notre discipline, si j'ose m'exprimer ainsi. Troisième débat, c'est celui de l'individualisation. Parce que c'est un livre, Florence Weber l'a souligné dans la recension qu'elle a proposée, la recension croisée de ton livre et de celui de Jean-Pierre Terrail, c'est une sociologie de l'individualisation. Et quand on lit un des livres importants qui en sociologie s'est consacré à cette question, je pense au livre de Bernard Lahire sur la culture des individus, il dit il y a quand même un défi méthodologique énorme à faire une sociologie ancrée dans des pratiques sociales, dans des positions sociales de l'individualisation. Et ce qu'il dit, je ne suis pas sûr qu'il le fasse entièrement dans la culture des individus, c'est que si on veut étudier l'individu réellement, il faut parvenir à l'étudier dans l'ensemble des sphères de la vie sociale qu'il va investir. Et peut-être empiriquement, c'est là une proposition qui est souhaitable, mais disproportionnée. Disproportionnée au sens où il est très très difficile de suivre un individu dans l'ensemble des lieux qu'il va pouvoir investir. Mais peut-être que par contre, la tripartition entre l'espace familial, l'espace du travail et ce tiers espace investi par les hommes, et dont Olivier Masclet nous dira peut-être qu'il est aujourd'hui investi par les femmes, eh bien, c'est peut-être une manière de segmenter l'espace social qui se prête à une analyse de l'individualisation ou une analyse des circulations de l'individu entre des espaces et éventuellement de conquête de marge de manœuvre ou de marge d'autonomie par rapport à des rôles sociaux qui appartiennent ou qui sont définis par chacun de ces grands espaces dans lesquels les individus ont à circuler. Donc quatrième point, et là je m'adresse pas tellement forcément à notre propre discipline qu'à d'autres discours, et notamment des discours philosophiques qui prennent au sérieux la question des objets et de la, on pourrait dire dans un langage qui est au fait celui de la théorie critique, la théorie de l'école de Francfort sur la colonisation du monde vécu des individus par la culture matérielle, par l'industrie culturelle ou la production de masse. Il y a l'idée que le rapport des contemporains aux objets est un rapport aliénant, fondamentalement aliénant. Et je crois qu'il y aurait dans les analyses du monde privé des ouvriers un antidote à cette généralisation-là, et un antidote qui aurait une double vertu, c'est-à-dire de voir dans les pratiques matérielles des acteurs, eh bien, à la fois, effectivement, les lieux dans lesquels on peut révéler les fragilités, les formes de domination, voire les formes de captation imaginaire et réel par des acteurs économiques, que ce soit dans l'emploi ou dans la consommation, mais aussi on pourrait voir les formes de déploiement de soi, les formes d'expansion ou les formes de satisfaction, de réalisation que les acteurs vont pouvoir se procurer à travers leurs échanges avec la vie matérielle. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Nicolas. Donc, nous avons 10 bonnes minutes de temps de discussion. Donc, peut-être à tout seigneur, tout honneur, Olivier, est-ce que tu souhaites réagir sur les points qui ont été évoqués sont très, très divers et très riches. Est-ce qu'il y a quelques-uns que tu souhaites souligner, reprendre, discuter?
Merci, Nicolas. Je vais essayer aussi d'être bref, et je promets plus bref que les fois précédentes. D'abord, un très très grand merci à vous, Nicolas et Cédric. Vraiment, je suis extrêmement touché, tout simplement, par le... Si j'essaie de représenter le travail que vous avez dû faire à partir, à l'aune du temps que me demande la moindre intervention dans un séminaire ou une journée d'études, ça lui demande des temps. Enfin, je vous remercie beaucoup. Et puis, je suis extrêmement intéressé par les thèmes que vous avez développés l'un et l'autre. J'essaie de réagir le plus brièvement que je peux pour laisser de la place à d'autres personnes. Puis j'y reviens si vous souhaitez ensuite. Sur la question de l'insécurité, tu as dit à un certain moment, il me semble, Nicolas, qu'elle était, Cédric, excuse-moi, qu'elle était présente, mais de l'incertitude dans le monde ouvrier, qu'elle était présente, mais d'une certaine manière, peut-être souvent plus en creux que de manière développée. Et je crois que c'est vrai. C'est pour ça que je n'ai pas du tout pris ce que tu as dit comme reproche, d'abord parce que tu l'as dit très 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 bien à la fin, voilà, on parle de telle chose et pas telle autre, mais parce que je crois que c'est vrai. En fait, je me le suis absolument jamais dit avant de t'entendre, mais je crois que c'est vrai. C'est-à-dire que, disons, il y a, alors même que je suis intimement convaincu que c'est une dimension fondamentale de la condition ouvrière, c'est complètement clair pour moi. Mais voilà, si je compacte l'ensemble des formes d'incertitude que tu as si bien déployées, j'en vois notamment deux autour desquelles soit j'ai tourné, soit autour desquelles j'aurais pu tourner et que je n'ai pas beaucoup développé. Il y a une première forme d'incertitude qui est celle des ouvriers qui disposent d'une certaine stabilité d'emploi, de salaire, et qui sont parvenus à un certain niveau de bien-être. Bon, emploi, salaire, conditions professionnelles. Bon, cette incertitude-là, c'est l'incertitude qui est le risque en permanence de perdre ce dont on dispose. C'est le risque du chômage partiel. Mais aussi, comme tu l'as dit, le risque, même à l'intérieur d'un statut d'emploi et d'un salaire qui demeure le même, de changement de tâche, d'emploi, de situation qui peuvent être déstabilisateurs. Bon. Donc, je suis schématique. Hein. Première incertitude, celle-là, celle de ceux qui possèdent quelque chose, disons. Bon. Et puis, il y a une seconde incertitude qui est celle de ceux qui ont très très peu de ressources, qui sont dans la précarité, et là c'est un autre risque, c'est le risque de ne même pas pouvoir parvenir à assurer la survie ou la vie de la famille à court terme, disons. Bon, donc deux types de risques. Et le sentiment que j'ai, puis après j'essaierai d'expliquer pourquoi je réagis là à chaud par rapport à ce que tu as dit, c'est le suivant. Sur la première incertitude, sur l'incertitude de ceux, voilà, d'André, par exemple, hein, des ouvriers qui sont plutôt vers le haut, tu as fait état de paragraphes dans le livre que je consacre quand même à l'énorme, comment dirais-je, à l'énorme angoisse qu'a provoqué pour lui au début des années 80 quand je faisais l'enquête l'entrée de l'usine dans une période tourmentée. Voilà, ça, tu as fait référence, bon, et c'est parfaitement exact. Néanmoins, j'ai l'impression, alors c'est 30 ans après, quoi, c'est même pas 20 ans après comme les Trois Mousquetaires, c'est 30 ans après, j'ai l'impression qu'au fond, même si j'y ai été attentif, malgré tout, pour des raisons sur lesquelles je vais revenir, encore une fois, j'y ai été attentif, mais au fond, malgré tout, pour moi, compte tenu de ce qu'était le paysage social dans lequel j'enquêtais, il m'apparaissait comme, par différence avec les autres, pas tiré d'affaire, mais dans une situation tellement plus élevée que la grande majorité de mes enquêtés, que je n'ai pas travaillé en détail sur les formes d'incertitude auxquelles ils étaient confrontés. Au fond, je savais, par exemple, que certains d'entre eux, notamment André, avait travaillé dans une usine qui était confrontée depuis maintenant quelques années à des difficultés très importantes. Mais au fond, pour moi, ils étaient quand même du côté de ceux qui s'en sortaient jusque-là pas trop mal. Et quant à ceux, et ils étaient très nombreux, qui étaient confrontés à l'autre incertitude, c'est-à-dire l'incertitude de ceux qui carrément sont dans la précarité, dans la pauvreté, en fait. Bon. Là, j'y ai consacré davantage de pages, peut-être là-dessus, sur ces questions-là, Anna Perini-Heredia est infiniment plus compétente et savante que moi. Je m'y suis intéressé, j'y ai consacré des pages, parce que ça m'a beaucoup mobilisé de voir quels étaient leurs systèmes de défense. Mais malgré tout, je suis conscient, et notamment j'en ai pris conscience en lisant la thèse d'Anna, que je n'étais pas allé très loin dans l'exploration de leurs tentatives pour maîtriser leur situation, parvenir à une gestion quand même un peu rationnelle ou anticipée de leurs difficultés. Bon, j'ai été attentif, j'ai décrit quelques cas, je m'en rappelle fort bien, mais j'ai pas autant creusé que d'autres aspects de l'enquête. Et je crois que tout ça est lié à une caractéristique. Alors tout ça est lié d'abord à ma propre cécité, hein, mais tout ça est lié à une caractéristique de l'univers social auquel j'étais confronté, qui a probablement limité l'intérêt que j'ai pu porter à ces questions. C'est que cet univers social-là, quand je l'ai étudié, se caractérisait par un, au fond, davant, plus encore que par l'incertitude, par la dépossession, au fond, et par un tel degré de dépossession, une dépossession liée d'abord à ce qu'avait été l'univers minier jusque dans les années 50-60, c'est-à-dire dureté du travail, bas salaire, très, très forte soumission au destin social, très faible chance d'échapper à ce destin. Alors, le tout évidemment limité par ce qu'apportait aux mineurs l'encadrement paternaliste, il leur apportait beaucoup, mais néanmoins une très forte domination. Et ensuite, après cette période qui déjà avait très fortement marqué les comportements et les corps et les conditions d'existence et les ressources dont les gens disposaient, ensuite, à partir des années 60, l'entrée dans la récession industrielle, la déstructuration industrielle, puisque en l'espace de 20 ou 30 ans, c'est à la fois la sidérurgie et les mines qui ferment. Bon. Au fond, le degré de dépossession était tel que chez beaucoup de mes enquêtés, il n'y avait même pas de tentative forte de construire des systèmes de défense par rapport aux contraintes économiques qui étaient les leurs. Naturellement, ils avaient des tactiques que j'ai essayé de décrire dans l'ouvrage pour s'en sortir. C'est évident. Bon, ils en avaient. Et par ailleurs, j'aurais certainement pu aller beaucoup plus loin dans l'exploration de ces tactiques. Mais néanmoins, ce qui me frappait, c'était deux choses. La première, du côté des hommes, c'était, vu le degré de raréfaction de l'emploi, le fait que beaucoup d'entre eux avaient tout simplement cessé d'espérer en retrouver un. Donc du côté des hommes, il n'y avait plus vraiment, de beaucoup d'hommes, il n'y avait plus vraiment de tentative de retrouver un emploi, parce que la région du Nord à ce moment-là, je crois que c'est toujours le cas, enfin, le bassin minier du Nord se caractérisait vraiment plus encore que par la précarité de l'emploi, par la rareté de l'emploi. C'était même pas de la précarité, c'était carrément la rareté du travail. Et quant aux femmes, beaucoup d'entre elles, alors ça j'ai essayé de le décrire, beaucoup d'entre elles, pour des raisons liées au refus, beaucoup d'entre elles d'ailleurs de leurs compagnons, pour des raisons liées à l'absence d'acculturation propre au système des mines avec tout ce qui concerne la gestion de l'argent, pour des raisons liées aussi à une espèce de très forte réticence au fond à se priver, parce que les privations accumulées avaient été telles, non seulement pour elles, mais pour leurs parents, qu'elles ne voulaient plus en entendre parler. Beaucoup d'entre elles, au fond, ne bâtissaient pas vraiment de système rationnel pour tenter de contrôler la situation à court et moyen terme. Alors, il y avait néanmoins des tactiques que j'ai essayé de décrire, notamment, acheter au minimum, éviter au maximum les achats, consommer au minimum. Il y avait toutes sortes de tactiques pour tenir. Mais j'ai très, très peu vu de calculs. J'ai essayé ça quand même, des calculs de ce qui était possible et impossible, de calculs des dépenses qu'on pouvait s'autoriser, très, très, très peu. Et alors, comme je ne veux pas être trop long, je ne développe pas là, je pourrais développer un peu plus, mais j'ai l'impression qu'au fond, le degré de dépossession, tout simplement, sur le plan de toutes sortes de ressources, était tellement important, lié à la fois à ce qu'avait été la condition ouvrière dans la période minière et ensuite lié aux effets produits par une récession industrielle massive. Il était tellement important que, pour ce qui concerne les fractions hautes, ça a presque bloqué mon attention à leur propre forme, ou limité mon attention à leur propre forme d'incertitude, parce que pour moi, ils s'en sortaient déjà pas si mal. Bon. Et ce qui n'était pas vrai, mais je veux dire, j'essaie de reconstituer mon raisonnement. Et pour ce qui concerne les catégories les plus précaires, chez beaucoup de leurs membres, il y avait très très peu, en fait, de tactiques pour s'en sortir, pour les raisons que j'ai essayé d'exposer. Bon. Et donc j'ai l'impression d'avoir plus décrit une situation de dépossession qu'une situation d'incertitude. Ce que c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Et je pense que ça explique ce que tu as très très justement relevé, je pense. Voilà, je suis déjà trop long. J'essaie de m'expliquer, mais parce que les questions que tu soulèves, je crois, sont très très. Et le paradoxe, c'est que je suis bien intimement convaincu que l'incertitude est une caractéristique fondamentale de cette condition ouvrière. Mais là, je crois que ce qui a été dominant dans ma perception de la condition ouvrière à ce moment-là, c'est beaucoup plus la notion de dépossession que celle d'incertitude par rapport à quelque chose que l'on aurait et qu'on risque de perdre. Les thèmes que tu soulevais, bon, je suis évidemment également infiniment intéressé et sensible à ce que tu as dit. Le statut de ton intervention est très très différent de celui de Cédric, parce qu'au fond Cédric a souligné quelque chose qui est présent, mais un peu en creux, au fond, dans le livre, et sans doute, au fond, pour dire les choses clairement, sans doute pas suffisamment développé et explicité, alors que s'agissant du statut des objets, au contraire, ils sont là et très, très, très fortement là. Je dirais peut-être deux choses. La première, c'est que il me semble que... j'avais lu un peu Hogarth à l'époque déjà. Il me semble que ce qui m'a imposé en quelque sorte cette importance que tu as si bien soulignée de la question des objets, c'est au fond que à la fois, c'est ce que je disais il y a un instant par rapport à l'intervention de Cédric, à la fois j'étais frappé par le degré de dépossession que cette condition ouvrière comportait sur toutes sortes de plans et par rapport à toutes sortes de ressources possibles. Mais en même temps, ce qui m'a frappé, et alors c'est là, je pense, que ce que j'appelais tout à l'heure mon ouvriérisme m'a aidé, ce qui me frappait, c'est en même temps, c'est que, comment dire les choses, même, comment dire, en dépit du degré de dépossession qui caractérisait cette condition, chez la plupart de mes enquêtés, pas tous, loin de là, mais chez la plupart de mes enquêtés, en tout cas chez une grande partie, la dureté de la condition n'annulait pas, ne détruisait pas le désir de créer malgré tout de la bonne vie. Et là, je reprends l'expression « bonne vie » à Hogarth. Il y avait un désir, il y avait une grande vitalité de ce désir-là. Quand je dis « pas chez tous », parce que chez certains, ça avait été cassé. Un jour, ça je me rappellerai toujours, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il fallait que je fasse attention avec ce désir. C'est une interview que j'avais faite, du reste pour un film qu'on avait fait, d'un homme qui, à un certain moment, pouvait être très violent quand il avait bu. Et de manière absolument stupide, je lui ai dit « Mais est-ce que tu pourrais dire ce qui te conduit à ce désir de boire ?» Et il m'a répondu, mais ce n'est pas du désir, c'est du dépit. Bon. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, qu'il fallait quand même que je fasse attention à ne pas présupposer chez tous du désir en pleine vie. Bon, voilà. Bon, donc là, j'ai eu un choc. Bon. Mais ce qui me frappait quand même, c'était la vitalité d'un désir, malgré tout, de créer de la bonne vie. Pas de la vie bonne au sens de la sagesse grecque, mais de la bonne vie. Je reprends l'expression de Hogarth, au sens où il y a malgré tout des moments et des aspects de la vie où il y ait quelque chose d'heureux, où il y ait du désirable, qui permettent cette expérience-là. Des moments ou des aspects de la vie qui permettent d'oublier, mais au sens fort, de mettre entre parenthèses les contraintes, les dépossessions et les privations. Et ça, j'ai été frappé progressivement par la vitalité de ce désir-là. Et si on préfère, plutôt que de raisonner en termes de désir, de parler en termes de pratique, j'ai été frappé par la vitalité des pratiques auxquelles j'avais fait, auxquelles je faisais référence. Et la vitalité de ce désir et de ces pratiques, eh bien, ils apparaissaient de toutes sortes de manières. Alors, Hogarth les a décrits, hein, dans un chapitre célèbre de la culture du pauvre. Hein, ce sont les moments festifs, les journées en quart, les moments où on chante. Bon. Mais il a consacré 2 pages à ce thème des objets. Alors, bon, mais tous ceux qui ont enquêté sur le monde ouvrier ont toujours été frappés quand on entre dans les intérieurs populaires. Bon, je suppose que Pierre Gilbert pourrait dire pareil. Bon, hein, c'est par ça. La vitalité, la présence de tous ces objets qui m'ont semblé avoir une fonction très importante pour créer de la bonne vie, voilà, pour créer du désirable. Bon. Alors après, du côté des familles ouvrières plutôt en ascension sociale, c'était les salons, les salles à manger, les fauteuils très confortables, canapés, la télévision à l'époque pas encore avec la taille de l'écran d'aujourd'hui, mais je pense qu'elle l'aurait, les buffets. Qui célébraient effectivement les victoires sur le manque et la privation, et puis bien sûr aussi la réussite sociale, bien sûr, mais qui célébraient l'accès au bien-être. Bon. Et puis, chez les familles les plus pauvres et les plus précaires, c'était tous ces objets, alors ça, je pourrais être très long là-dessus, hein, mais je pense que bien d'autres parmi nous pourraient l'être aussi, qui, même avec de très petits moyens économiques, qui généraient un sentiment... Enfin, avoir pour fonction de générer un sentiment d'abondance, d'opulence, d'exubérance. Bon. Et alors, tel appartement dans le HLM était littéralement plein de plantes et de poupées. Bon, des poupées, il y en a plein. Bon, je le vois comme si c'était hier. Bon. Tel autre, c'était plein d'oiseaux. Alors, j'avais même du mal à faire mes entretiens tellement les oiseaux caquetaient dans tous les sens. Bon. Tel autre, c'était encore autre chose. Bon. Il y avait aussi les objets ouvragés. Bon, alors, eux qui exprimaient cette une faculté, plutôt la faculté de faire et de produire des hommes. Bon. Et donc, je crois que ce qui m'a mis sur la voie des objets, c'est le sentiment de cette vitalité chez tant de mes enquêtés, en dépit du degré de dépossession, cette vitalité du désir de créer de la bonne vie et des pratiques créatrices de bonne vie. Voilà. Si je peux, mais là, si vous me dites si j'ai 2 minutes ou pas, j'arrête sans ça, je m'arrête. Bon, Nicolas, je sens à ton regard qu'il faut que je m'arrête. Voilà.
Je suis très hésitant. Non, mais tu as raison. En fait, je pense qu'on n'a plus le temps de faire une discussion. Alors, si on écoute ce qu'on vient d'entendre, ce n'est pas très grave, puisqu'en fait, il n'y a pas de désir sans privation. Donc, comme ça, Olivier Schwarz va continuer à travailler vos neurones pendant longtemps. Et du coup, je propose de continuer, puisque c'est très plaisant de t'écouter. Je te laisse 2 minutes, mais pas plus, d'accord, Olivier. Et après, on ira déjeuner.
Merci, Nicolas. Tu es un remarquable président de séance. Alors, je dirais ceci. Bon, j'ai probablement dépassé 2 minutes, mais pas plus que 3-4. Promets, Nicolas. Voilà. Je promets. Hein. Voilà. C'était parce que il a tant été question déjà de désir et d'imaginaire depuis ce matin que peut-être certains parmi vous se disent, mais qu'est-ce qui fait ce gars-là et qu'est-ce que c'est que cette sociologie-là? Bon, alors, j'aurais juste peut-être dire ceci. C'est vrai que je me suis défini assez vite comme j'ai défini très vite le travail que je voulais faire comme ethnographique, mais il me semble que la manière dont j'ai perçu l'ethnographie que je tentais de faire, celui avec qui j'ai fait ma thèse, je crois d'ailleurs il me semble que c'était le cas de Florence Weber aussi, mais le dira, c'était Gérard Altab, bon, qui est décédé il y a plusieurs années maintenant, mais qui a joué un très grand rôle pour beaucoup d'entre nous. Et Gérard Altab était un anthropologue. L'école de Chicago, sa seconde génération, Hughes, c'était très étranger pour lui, c'était très très loin, et il m'en parlait très très peu. Et on l'a découvert un peu ensemble. Et quand je lui ai demandé, quand je lui ai dit, voilà, moi, ce que je voudrais faire, c'est de l'anthropologie, qu'est-ce que ça veut dire, à ton avis? Parce que très vite, on s'est tutoyé. Alors, il m'a donné plusieurs conseils, et il m'a dit, de l'anthropologie, ça veut dire que tu fais comme Malinowski. Ça veut dire que tu étudies un univers social de l'intérieur. Et ça ne m'a jamais quitté. C'est-à-dire que la représentation de l'ethnographie qui m'a été transmise par Altab, c'était pas une représentation qui se centrait sur l'idée d'observation des pratiques. C'était une représentation qui était d'abord et avant tout centrée sur l'idée qu'on tentait de saisir une condition sociale de l'intérieur. Comment elle était habitée? Comment elle était habitée? Quelles relations ceux qui la vivaient entretenaient avec elle? Pour forcer un peu une condition sociale comme expérience subjective, sachant qu'évidemment on ne la comprend pas comme expérience subjective, on ne la décrit pas de très très près objectivement. Comment cette condition sociale était-elle appropriée? Or, s'approprier une condition sociale, ça passe bien sûr de manière absolument centrale par des pratiques, mais pas seulement. Ça peut aussi passer par des projections, par des perceptions, par de l'interprétation, par de l'imaginaire. Je n'ai pas été formé par Altab, pour autant qu'il acceptait de former qui que ce soit, parce qu'Altab ne voulait pas jouer au maître, mais quand il acceptait de parler, je n'ai pas été formé à une conception de l'anthropologie centré sur la stricte description observationnelle des pratiques. J'ai appris l'anthropologie auprès de quelqu'un qui était beaucoup plus anthropologue que ethnographe à la manière de Chicago et qui m'a surtout sensibilisé à l'idée de conditions sociales comme expérience subjective avec tout ce que ça implique comme attention aux pratiques mais aussi à l'imaginaire. Et ça, je dirais que pour le meilleur et peut-être pour le pire, ça ne m'a jamais quitté. Et je continue de me sentir plus proche aujourd'hui de cette représentation-là que d'une représentation strictement école de Chicago seconde génération. Alors, ça peut se traduire par un usage peut-être abusif. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que toutes les pages du monde privé des ouvriers, je les réécrirai aujourd'hui comme ça. Je sais bien même que ce ne serait pas le cas. Bon. Mais j'étais à l'époque, mais ça, ce serait une autre discussion. Je l'ai raconté à Nicolas et à Cédric. J'étais complètement extérieur au milieu des sociologues à l'époque, comme quand je me suis lancé là-dedans. Hein. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui m'est resté. C'est-à-dire, j'ai conservé, voilà. Donc, probablement qu'aujourd'hui, j'accepterai de mettre la pédale douce sur désir et imaginaire, mais, ou en tout cas sur un usage un peu inflationniste que j'en ai fait dans le livre. Mais l'idée que l'ethnographie, ça sert à s'intéresser à tout l'ensemble des dimensions qui constituent une condition comme expérience subjective et pas seulement à la description des pratiques. J'ai eu des discussions avec plusieurs collègues là-dessus déjà. Ça ne m'a jamais quitté. Et ça explique peut-être une partie de la place que ces thèmes-là ont dans le livre, même si sans doute aujourd'hui, 30 ans après, je suis devenu plus sage là-dessus. Voilà. Merci à toi, Nicolas. Je sens que tu m'as... Voilà.
Merci beaucoup.